Nous sommes par satellite avec François Lyonnais, le créateur du Stos et de l'Amos de Basic, spécialisé sur la création de jeux vidéo. François Lyonnais, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi avez-vous créé un langage spécialisé, fortement orienté jeux vidéo ?
En fait, ça s'est fait tout seul. Si vous voulez, à l'époque, c'était en 87, je faisais beaucoup d'adaptations sur les différentes machines de l'époque pour survivre, en fait, comme beaucoup de gens, quoi. Quand on débute quelque part, on essaie de survivre jusqu'à ce qu'on ait des contrats. Et les premières, j'en ai fait donc, j'ai fait des jeux sur Oric, sur Commodore 64, sur IBM PC, etc., sur Atari ST. Et la première chose qu'on fait quand on arrive sur une machine, c'est faire un générateur de sprites. Qu'est-ce que c'est un générateur de sprites ? C'est un générateur de lutins graphiques. Voilà. Donc je me suis dit que c'était quand même un peu répétitif. Et Stos est parti sur l'idée de faire en fait des routines de base, toutes prêtes, pour faire des jeux. Voilà.
Pourquoi avez-vous basé votre langage sur le Basic ?
Parce que le Basic était à l'époque, il faut se remettre quand même dans le bain de l'époque. Hein. C'était en 86 hein, quand l'idée de faire le Stos est venue, avec la venue de l'arrivée de l'Atari ST. C'était le langage le plus populaire sur les machines à cette époque, puisque la plupart des machines avant l'Atari ST n'avait que le Basic, on les mettait en route et on avait un curseur, point, hein, comme le Commodore 64, etc., l'Oric, l'Amstrad CPC. Donc ça, c'était des machines totalement centrées sur le Basic. Et l'Atari ST est arrivé un petit peu comme avec un niveau, côté novateur et le fait, l'interface graphique avec, en fait, le Basic n'étant plus le centre de l'ordinateur. Et surtout aussi le basique de l'Atari ST. Atari ST était une catastrophe. Voilà. Donc, il faut bien le dire. Donc, il y avait une place.
Oui, une catastrophe, comme l'avait dit notre ami Benoît Triquet durant l'interview. Quand vous êtes arrivé, il y a eu en même temps d'autres langages qui sont arrivés, qui étaient un petit peu précurseurs. Je pense au GFA Basic qui est arrivé avant de mémoire, et le Blitz Basic qui est arrivé après le Stos et l'Amos. Comment vous avez vu un petit peu la concurrence sur donc les deux plateformes 1632 de l'époque ?
Oh bah c'était mes ennemis jurés en fait, voilà, effectivement, c'est vrai qu'à l'époque c'était des gros compétiteurs en fait, mais il y avait quand même une très grosse segmentation des basiques, et le Stos était surtout utilisé en Angleterre, où là il avait une bonne part du marché, je pense que c'est à peu près identique au GFA, mais dans d'autres pays, il faut bien le dire, il faut reconnaître ce qui est, le GFA était un basique plus structuré, plus complet et moins fantaisiste hein, quand même, voilà, c'est ça, c'était un peu fantaisiste le Stos quand même.
Oui, et qui proposait moins d'interactions avec le système fenêtré de base. Donc c'est
ça, voilà. Moi, je ne respectais pas le système, mais pas du tout. Hein. J'ai quand même un peu honte, et ça, je peux le dire maintenant. Mais quand vous démarriez le Stos, je virais la machine. Hein. Je prenais les adresses étaient physiques. Hein. Donc c'était encore c'est la dernière machine où on pouvait faire ça sans tout mettre à terre. C'est-à-dire, je prenais toute la mémoire de zéro au début de l'écran pour moi. Point. Voilà.
Petite leçon pour nos amis audilecteurs, respectez toujours les standards et les appels système. Toujours. C'est toujours
voilà.
Bien. Alors, pourquoi finalement ne pas avoir continué sur votre lancée et avoir lancé un PECOS ou un MACOS ?
On arrive à la fin de la MOS. C'était aux alentours de 1993 et l'Amiga était en chute libre. Et l'Amiga est une machine qui a eu une fin de vie très brutale, en fait. Hein. 94, les éditeurs ont tous changé de côté.
Donc, il y avait déjà plus que des adaptations de jeux qui venaient du ST. Et il faut reconnaître que la déconfiture commerciale de Commodore n'a absolument pas aidé et les reprises derrière n'ont pas été heureuses.
C'était la débandade, en fait. Voilà, c'est ça. Donc mon éditeur me demandait de passer sur PC. Pourquoi ne pas avoir fait un basique ? Eh ben écoutez, là c'est pour une raison qui est un petit peu moins drôle. C'est que j'étais un peu en bisbille avec mes associés de l'époque, le groupe Jokes, en bisbille légale quoi. Donc il était pour moi impossible de faire un langage sur autre dérivé du Stos et de la MOS.
Ah, quel dommage.
Voilà, mais en fait, tant mieux, parce que ça m'a poussé à travailler, et quand je suis passé sur PC, parce que finalement, je suis passé sur PC, j'ai fait click and play en m'associant avec Yves Lamoureux, qui était un petit peu un pied de nez à Jokes, en fait. C'est un créateur de jeux, mais avec des images, voilà. Et sur la machine, la moins graphique, hein, vraiment click and play aurait dû être sur Amiga, où c'était vraiment fait pour, quoi, mais c'était sur PC.
Quel a été le plus digne successeur du Stos et de Lamos, après vous? Est-ce que c'était par hasard Flash par Macromedia?
Alors, Flash, déjà, c'est pas mal. Mais non, il y a eu un véritable successeur qui s'appelait Dark Basic. Alors, l'histoire de Dark Basic est assez rigolote. Déjà, le nom, Dark Basic, pourquoi Dark Basic? Eh bien, Dark Basic a été créé par Lee Bamber. Et Lee Bamber était un employé d'Europress qui a travaillé sur le Stos et sur la MOS, un extraordinaire programmeur. Et vous devez le connaître, hein, vous devez connaître ses produits et sa société.
Mais il faut expliquer qu'Europress était le distributeur de d'Amos.
Voilà, c'est ça. Et donc, lui, il adorait la MOS et il était complètement catastrophé qu'il n'y ait pas de version PC de la MOS. Mm-hmm. Donc, pendant qu'il travaillait à Europress Software, et c'est ça qui est drôle, alors qu'il devait prétendre faire programmer, en fait, il programmait son produit concurrent qui s'appelait Dark Basic. voilà. Et Dark Basic était un super Basic, en fait, hein, fonctionnant sous DOS. Avec de la 3D, etc. Un excellent produit, et à tel point qu'il en a fait une société et qu'il a qui s'appelle The Game Creator. Il a été rejoint, et c'est ça qui est aussi assez drôle en fait, par Richard Vanner, qui était mon project manager sur la MOS, a rejoint Bill Bamber sur son projet Dark Basic, et ensuite a été en plus rejoint par Mitch Meakin, qui était le CEO de Europress Software. Donc tout le voilà, donc Amos a généré donc toute la société The Game Creators, qui est encore active aujourd'hui avec des super produits en 3D extrêmement simples et bien foutus. Et c'était à l'origine un genre de plagiat interdit en plus, parce que je pense qu'il aurait été viré de Europress s'il l'avait su.
Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet actuel, AOZ?
Ah bah oui, avec plaisir. Donc AOZ, c'est un projet que j'ai commencé à zéro, c'était en novembre, il y a 3 ans. Et c'est un projet qui me caressait, que j'avais envie de faire depuis longtemps, c'est réécrire un basique en utilisant JavaScript, en fait. Voilà, et faire un transpilateur. Lamos a quand même été le succès qui a marqué ma carrière. Il y a un retour de cette demande de simplicité, avec de plus en plus de gens qui se lancent dans la carrière de programmeur sans rien connaître, quoi. Je suis en contact avec des professeurs d'université. Ils me disent qu'il y a de plus en plus de gens qui arrivent en université à 20, 22 ans et qui n'ont jamais touché un ordinateur de leur vie et qui se lance dans des études de programmation sans jamais avoir touché un ordinateur, dans le but de programmer en entrant à l'université. Donc ils arrivent complètement débutants. Moi ça me choque un peu, quoi. Donc je pense qu'il faut en fait, le meilleur moment pour apprendre l'informatique, c'est quand on est petit, quand on a le temps. Et il faut simplement, il faut proposer. L'avantage d'Amos, c'est que c'est quand même si c'était un produit un petit peu pas très fini, un peu fait par un gamin. J'étais un gamin à l'époque, en fait, avec une syntaxe un peu bancale parfois, qui a été beaucoup critiquée pour ça et qui ne respectait pas le système graphique. Il avait cet avantage de prendre les utilisateurs au sérieux, en fait, c'est-à-dire leur donner un ensemble de commandes dans un machin relativement ficelé et clos. Hein, c'est un univers clos où vous aviez tous les accessoires, c'était un kit complet. Maintenant, quand on veut débuter dans l'informatique, si je tape « je veux apprendre à programmer » sur Google, on a 50 000 réponses et puis on ne sait pas où commencer, etc. Donc le gamin de 10 ans, il y en a qui vont commencer avec Python, qui à mon avis est un faux ami au niveau de la simplicité. Python, c'est gentil quand on fait juste print hello, mais ça devient vraiment compliqué quand on rajoute des librairies, etc. Et ça passe. Donc voilà, il fallait un retour d'un langage où on met en route, puis que c'est installé en 2 minutes et on fait son premier programme en 5 minutes. Print hello world, c'est ça.
D'accord. François Lyonnais, merci beaucoup de nous avoir rejoints. C'est personnellement un immense plaisir, surtout de voir que vous avez gardé surtout la même énergie et la même passion pour les langages à programmer simples pour faire un truc fun. Bien à vous, bonne soirée.